Nous sommes devant le porche du Mako.
Avant de vous présenter ce musée au concept novateur, revenons un instant sur la période charnière qui a vu le commerce des vins prendre la relève de celui du sel.
Après la guerre de Cent Ans, les campagnes se repeuplent et les échanges reprennent.
À la faveur de cette embellie, en bon ambassadeur de sa ville, François Ier accorde de nouveaux privilèges fiscaux et ordonne des aménagements portuaires et fluviaux qui favorisent le développement économique du port de commerce. Mais peu après, l'extension de la taxe du sel sur la région déchaîne contre la ville et ses privilèges la grande révolte paysanne dite des Pitots. Elle se terminera dans le sang. 150 mutins exécutés pour l'exemple. Un épisode macabre qui sonne la fin du privilège saunier de cognac. Mais grâce à la notoriété des vins de pays, l'activité économique de la ville dépendait davantage des fruits de la vigne que de la fleur du sel.
Ah là 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 là, c'est incroyable! Tout le monde veut faire du vin! Les paysans abandonnent la culture des céréales pour devenir vignerons! On défriche, on déboise pour planter de la vigne partout, y compris sur des terres peu adaptées!
Cette surproduction fait chuter la qualité et le degré d'alcool des vins qui ne supportent plus les voyages en mer. Pour absorber cette production et éviter les pertes au XVIe siècle, les commerçants hollandais commencent à distiller le vin qui ensuite est consommé allongé d'eau.
Allongé d'eau ?
Oui. On pense reconstituer le vin original en lui ajoutant le volume d'eau perdu par la distillation. Mais ce breuvage transformé par l'alchimie de l'alambic n'est plus du vin, mais du vin brûlé.
Ah ouais, ok, vin brûlé. Brandewijn en hollandais est à l'origine du nom brandy.
Donc la production viticole comprend désormais les vins de table avec ses crus réputés et les vins dits de chaudière. On cherche alors à améliorer les caractéristiques de l'alambic en mettant au point le principe de la double distillation qui permet enfin de séparer les composés néfastes pour le goût.
Vu comme ça, ça paraît simple.
En fait, le procédé qui consiste à chauffer de nouveau le produit de la première distillation est très délicat. Ce second passage qu'on appelle la bonne chauffe permet d'obtenir de l'eau de vie, un alcool concentré et inaltérable, capable de voyager dans de bonnes conditions. Et pour tout vous dire, jusque-là, l'eau de vie de vin était réservée à un usage médicinal. Bon, elle était consommée principalement par les marins exposés au scorbut et par les armées en campagne. C'est qu'elle avait un fort mauvais goût que l'on masquait en ajoutant des arômes de plantes ou de fleurs.
Et cette nouvelle eau de vie, on la consomme toujours allongée d'eau?
Oui. Bon, c'est encore par hasard. En fait, suite à des retards de transport, que l'on découvre que cette eau de vie se bonifie en séjournant dans les fûts de chêne et qu'elle peut être consommée pure.
Ben, si je comprends bien, il va falloir apprendre la patience pour élaborer un bon cognac.
Exact. C'est en sachant attendre que les eaux de vie de la région de Cognac vont devenir célèbres dans le monde entier sous le nom de cognac.
Enfin, sans oublier l'autre produit phare du terroir, le Pinot des Charentes.
Le Pinot des Charentes est le fruit d'un mariage heureux entre raisin et cognac. Il doit lui aussi ses origines au hasard.
La légende raconte qu'au XVIe siècle, un vigneron versa par mégarde du moût de raisin dans une barrique d'eau de vie de cognac. Puis il rangea ce fût devenu inutile dans un coin de son chai. Quelques années plus tard, ayant besoin de cette barrique, il décida d'en vider le contenu. Et c'est à ce moment-là qu'il découvrit un liquide limpide et ensoleillé. Le Pinot des Charentes était né.
Devenu AOC en 1945, le Pinot blanc ou rosé sait vieillir en fût et se déguste frais, de l'apéritif au dessert. Comme le cognac, il sait aussi accommoder de nombreuses recettes de cuisine.
Du patient travail de la vigne aux dernières créations du packaging, le musée retrace l'histoire du cognac et de son aventure industrielle. Laurence Chêneau-Dupin nous le présente.
On a souhaité constituer un parcours tout à fait actif parce que le propos était très vaste, très large et nous souhaitons surtout ne pas ennuyer le visiteur en lui permettant d'avoir une visite où il peut se mettre en situation et solliciter ses sens, l'olfaction, le toucher, dans la tonnellerie par exemple. Nous avons notre rôle de musée de préservation des collections patrimoniales et de présentation d'objets anciens, mais on a essayé de les mettre en scène et de permettre aussi d'ailleurs une découverte pour le jeune public. Il y a beaucoup de sujets qui sont tout à fait adaptés sur l'histoire du territoire, sur la viticulture, la tonnellerie, le packaging. Donc la visite peut tout à fait se faire en famille.
Bien, rejoignons maintenant l'église Saint-Léger, la plus belle église de la ville. Au sommet de la rue où nous sommes, continuez tout droit dans la rue Bricard. En poursuivant, nous arrivons rue Henri-Germain, tournez à gauche. Prenez ensuite à droite la rue du Palais jusqu'à la rue Aristide-Briand, puis tournez à gauche. Nous vous attendons en face du portail de l'église.